Vous êtes sur RTL. RTL, nous voilà bien.
Que ce soit dans la mode ou dans l'ameublement, le marché de l'occasion est en pleine expansion et de nombreuses plateformes en ligne en profitent. eBay, Vinted, Le Bon Coin, quels sont les sites les plus pratiques et intuitifs pour revendre ses affaires et sur quelles plateformes les commissions sont-elles le moins élevées? C'est l'enquête de la semaine. L'année 2021 a été un record en termes de vente d'appareils électroménagers. Pourtant, l'habitude qui consiste à remplacer son réfrigérateur, son aspi ou son téléphone dès la première panne est mauvaise pour le portefeuille et pour l'environnement. Alors, comment bien entretenir ces équipements domestiques pour optimiser leur fonctionnement et les faire durer plus longtemps? C'est la question de la semaine. On croit à tort que la gastronomie américaine se résume à la junk food. Si le hamburger est sans conteste le plat national des États-Unis, les curiosités alimentaires sont nombreuses et chaque État possède sa spécialité. Alors comment préparer la soupe de palourde de Boston, le pain de viande ou le vrai cheesecake new-yorkais? Ce sont les recettes américaines de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, votre magazine du samedi matin qui vous aide à mieux consommer au quotidien. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL, c'est parti.
Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des bas, des gants, des jupes, des pantalons.
Adriane de San Isidoro, bonjour.
Bonjour Flavie.
Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de mars est en kiosque. Avec vous, on va parler des principaux sites de vente entre particuliers. Justement, quels sont-ils et combien on compte de visiteurs par mois?
Il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui, mais il y en a deux qui sont particulièrement importants. Ce sont Le Bon Coin et Vinted. Alors pour avoir une petite idée, au quatrième trimestre 2021, Le Bon Coin a attiré par mois en moyenne près de 27 millions de visiteurs unique français. Et de son côté, Vinted en a attiré 17 millions. Donc c'est conséquent.
C'est conséquent et c'est un vrai succès. C'est quoi le meilleur site pour vendre des vêtements de marque à bon prix?
Alors, les résultats de notre essai sont assez contrastés. Mais disons qu'avec une note de 17,5 sur 20 pour Vinted, spécialisé dans la vente de vêtements, on peut dire que voilà, il écrase vraiment ses concurrents. L'avantage est aussi net pour Le Bon Coin qui arrive premier dans la catégorie d'objets divers avec une note de 16 sur 20.
Alors, quand vous appelez objets divers, c'est quoi? C'est l'électroménager, les meubles d'occasion?
Exactement, ça va du high-tech aux meubles en passant par tout un tas de catégories diverses et variées.
Ok, on peut trouver des objets rares et des œuvres d'art sur ces sites?
Alors il est clair que de nombreux antiquaires utilisent ces sites pour trouver des pépites à revendre auprès de leur clientèle, mais pour repérer ces bonnes affaires, il vaut mieux d'abord disposer de solides connaissances sur la gamme d'objets recherchés et s'assurer ensuite, pendant la remise en main propre, que les objets sont bien conformes aux descriptions, on ne s'improvise pas brocanteur ou dénicheur de pépites du jour au lendemain.
D'accord, donc en fait, prudence et mère de sûreté, hein, considérez-vous.
Exactement.
Bon. Quels sont les sites testés dans votre enquête qui sont les plus satisfaisants, je dirais, allez, en tout point de vue?
Alors, côté vente d'objets divers, Le Bon Coin, Rakuten et Facebook Marketplace offrent une expérience satisfaisante du début à la fin du processus de vente. Mm-hmm. Même constat pour Vinted et Vidressing dans la catégorie vente de vêtements. Si on devait donner un bonnet d'âne, il serait pour eBay, l'acteur américain pionnier de l'e-commerce, qui a écopé de la mention insuffisante pour son système de paiement.
C'est-à-dire?
La faute, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que les transferts d'argent de particulier à particulier étaient assez laboriés et qui pouvaient prendre des semaines, des délais jugés évidemment trop longs par nos vendeurs enquêteurs.
D'accord. Donc là, vous parlez vraiment de rapidité. Sur quel site est-ce que je peux espérer vendre mon produit le plus rapidement possible?
Alors, en moyenne, les ventes les plus rapides ont été conclues en 11 jours sur Vestiaire Collective et Facebook Marketplace, suivi d'assez près par Le Bon Coin et Vinted. C'est en revanche nettement moins rapide sur le site de vente de vêtements La Reboucle. Sur cette plateforme, nos vendeurs enquêteurs ont mis 33 jours pour vendre leurs articles. Une durée, vous vous en doutez, beaucoup trop longue à nos yeux.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut connaître le juste prix du produit qu'on souhaite vendre? Ou même acheter, je dirais parfois, c'est pas évident de savoir si on est dans la bonne fourchette.
Oui, alors pour se faire une idée, il faut faire quelques simulations et le mieux en fait c'est de rentrer l'intitulé de votre objet dans la barre de recherche du site d'occasion et de coller au prix de vente des autres internautes. Parce que si votre tarif est très au-dessus du montant moyen, il y a peu de chances que votre pull ou votre sèche-cheveux trouve preneur.
D'accord, ok. Donc en fait on se base sur les prix des autres vendeurs finalement de produits similaires sur le site, c'est ça? On parlait de paiement tout à l'heure. Quand on est client, c'est quoi les solutions de paiement qu'il faut privilégier? Parce que c'est vrai qu'il y a CB, PayPal, comment ça se passe?
Alors, Alors, en principe, il est préférable de passer par la solution de paiement intégrée au site, censée être plus sécurisée que les autres moyens de paiement. À l'exception de Facebook Marketplace et VivaStreet, les 9 sites testés proposent tous un paiement intégré.
Ok. Et on est débité, j'imagine, quand on a reçu le produit.
Alors, en fait, la somme est immédiatement débitée après l'achat, quand on est acheteur, bien sûr, et en général versée au compte du vendeur lorsque le colis a été reçu et déclaré conforme à l'annonce par l'acheteur.
Ok, d'accord. Donc, en fait, si j'achète quelque chose, moi, je suis débité immédiatement. En revanche, si c'est vous qui me vendez quelque chose, vous allez recevoir l'argent à partir du moment où moi, j'aurais dit, ok, j'ai bien reçu le produit, il est conforme à ce que j'avais commandé, tout est bon. D'accord, donc tout
fait,
ça, c'est géré.
En gros, parce qu'en fait, si vous voulez, les sites de vente d'occasion servent un peu de tiers de confiance.
C'est
en gros, l'argent, il est placé sur un compte un petit peu intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Et il faut que tout soit dans les clous pour que cet argent aille de l'un à l'autre.
Ok. Et on doit déclarer ces ventes aux impôts, au fait ?
Alors, si l'on vend occasionnellement en dehors de toute activité professionnelle, il n'est pas besoin de déclarer ses ventes aux impôts. En revanche, si une transaction dépasse les 5000 euros, donc une coquette transaction, il faudra la déclarer au Trésor public et s'acquitter d'un paiement des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5%, c'est pas rien, sur la plus-value réalisée.
Ok. Quels sites prennent la plus grosse commission sur les ventes et lesquels sont les moins gourmands ?
Alors, le site qui prend la plus grosse commission, c'est clairement Rakuten, sur un type de marchandises bien précis. La plateforme prend en effet 27% du prix de vente sur tous les objets cédés entre 0 et 25 euros.
Attends, c'est énorme. C'est
vraiment rondelé. Et donc, si on vend des objets de faible valeur, mieux vaut donc passer par un autre site. Mmh. De leur côté, Vestiaire Collective et eBay prélèvent respectivement 12 et 10% de commission. Et avec ces 4 petits pourcents, Le Bon Coin est le moins gourmand des 9 sites de vente entre particuliers.
Adriane, vous restez avec nous, car grâce à vous, on est des consommateurs plus avertis en ce samedi matin. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bienvenue dans Nous Voilà Bien, on est ensemble jusqu'à 10h, on vous accompagne tous les samedis matins et on vous donne plein de conseils pour vivre mieux. Comment entretenir et allonger la durée de vie de nos appareils domestiques ? C'est Anne-Charlotte Bonjean qui va répondre à nos questions dans un instant. On partira se régaler aux États-Unis avec Grégory Cohen et vous verrez qu'il n'y a pas que des burgers. Mais pour l'instant, nous sommes avec Adriane de San Isidoro, de 60 millions de consommateurs. Et avec vous, Adriane, on parle ce matin des sites de revente entre particuliers. Et alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve quasiment toujours les mêmes en tête de peloton, on ne va pas se mentir. Hein. C'est-à-dire, c'est Vinted et Le Bon Coin, grosso modo.
Oui, c'est vraiment les deux qu'on retrouve tout le temps sur les marches des différents podiums.
Et Vinted, c'est principalement des vêtements, on est bien d'accord. Et Le Bon Coin fait plein de choses différentes, avec peu de pourcentage, c'est ça.
Oui, exactement. Ils prennent que 4% et on trouve de tout. Il y a des dizaines de catégories de marchandises.
Ouais, c'est super. Et puis alors, dès qu'on commence à mettre le nez là-dedans, j'ai l'impression qu'on n'en sort jamais. On pourrait y passer tout un week-end. Il y a des faux acheteurs qui se cachent sur ces sites de vente entre particuliers.
Clairement. Alors, combien il y en a ? C'est difficile d'apporter une réponse bien précise, tout simplement parce que, comme vous en doutez, les escrocs évitent soigneusement de se signaler à la maréchaussée, mais ils sont probablement assez nombreux. En tout cas, selon notre étude, 21% des répondants pensent avoir discuté avec de faux acheteurs.
D'accord. Et comment est-ce qu'ils procèdent pour arnaquer, justement ?
Alors, pour tromper le plus de victimes, des petits malins peuvent envoyer des mails imitant les courriels officiels de plateformes très connues, le service de paiement PayPal, par exemple, pour les attirer vers des sites imitant parfaitement leur modèle. Et une fois qu'on laisse ses coordonnées sur ces plateformes malveillantes, bricolées de toutes pièces, ces coordonnées bancaires sont aussitôt aspirées et mémorisées, et ensuite utilisées par les pirates pour effectuer un maximum d'achats dans un second temps. Donc le mieux, pour limiter ces escroqueries, ça reste de privilégier une remise en main propre, si on est dans le secteur ou pas très loin du vendeur. Et si on est vendeur, il faut exiger plutôt un paiement en espèces, qui est en général plus sûr qu'un règlement par chèque.
Et comment est-ce qu'on repère un faux vendeur ?
Alors très souvent, les faux vendeurs vous demanderont de ne pas régler par le paiement intégré du site qui est trop sécurisé.
Oui, donc
ils essaieront, ils essaieront aussi d'obtenir un autre moyen de contact, votre numéro de téléphone ou votre adresse mail par exemple, pour interagir avec vous directement sans passer par la plateforme marchande.
Mmh, d'accord.
Et de façon générale, si votre interlocuteur se montre insistant et cherche à vous forcer la main, coupez court à la discussion.
Et si on n'a pas, si on les a pas repérés et qu'on est vraiment victime d'arnaqueurs, on fait quoi ?
Alors, si vous êtes victime d'arnaque, appelez d'abord Info Escroquerie Donc le numéro c'est 0805 805 817. Il s'agit d'une ligne gratuite pour prendre conseil auprès de gendarmes ou de policiers formés à la lutte contre la cybercriminalité qui vous indiqueront la marche à suivre au cas par cas. Quoi qu'il arrive, mieux vaut rester vigilant avant de valider toute transaction parce que dans bien des cas, il reste très compliqué de remonter à la trace de l'arnaqueur qui s'est envolé avec votre argent.
Évidemment. En tout cas, c'est l'heure pour vous de vous envoler. Adriane de Saint-Isidoro, mais les mains vides. Mais en tout cas, grâce à vous, on aura appris beaucoup de choses. Et puis surtout, on sait que 60 millions de consommateurs est en kiosque avec votre enquête sur le sujet. Merci beaucoup, Adriane. À très bientôt.
Merci
j'espère
beaucoup,
dans le voilà bien. Salut.
Mon Dieu, quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur.
Patachou, un mari qui bricole, et puis les femmes à la cuisine. C'est pas d'une autre époque tout ça. Anne-Charlotte Bonjean, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous travaillez à l'ADEME au sein de la direction économie circulaire sur les sujets d'allongement de la durée d'usage des produits et plus particulièrement ce qui touche à la réparation. Et voilà, grâce à vous, en fait, on répare plutôt qu'on ne remplace, ce qui est quand même sacrément moderne pour le coup.
Tout à fait, c'est très important pour la planète, pour limiter les consommations de ressources et surtout pour faire durer ces produits le plus longtemps possible.
Et dites-moi Anne-Charlotte, c'est quoi la durée de vie moyenne des appareils électroménagers ?
Alors sur des gros électroménagers, par exemple sur le lave-linge, la durée de vie moyenne elle est de 10 ans et c'est une durée qui est relativement constante depuis 10-12 ans. Oui. Sur une télévision par exemple, ça va être autour de 8 ans la durée de vie moyenne.
Ok. L'électroménager vendu aujourd'hui, ça tombe plus vite en panne qu'avant ou pas ? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que nous disent un peu les anciens. Moi, mes grands-parents, j'ai l'impression qu'ils ont toujours eu la même télé et nous, voilà, on doit en changer tous les 8 ans.
Alors non, ça tombe pas plus vite en panne. La durée de vie est vraiment et reste constante. Les pannes sont même un peu moins fréquentes. En fait, le passage à l'électronique peut éventuellement provoquer un peu plus de dysfonctionnement électronique, mais dans les premiers instants d'utilisation des produits. Après, sur la durée de vie, il y a moins de pannes parce qu'on n'a pas du tout d'usure liée à l'électronique en fait.
Mais il y a quand même l'obsolescence programmée, ça existe ça ?
Alors, l'obsolescence programmée est interdite par la loi française depuis 2015. Donc non, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il n'y a eu aucune condamnation depuis l'entrée en vigueur de la loi.
Donc les consommateurs, en fait, ils n'ont pas à s'inquiéter de cette histoire d'obsolescence programmée, si je vous entends bien.
Non, il n'y a pas besoin. Et de toute façon, dans une économie très concurrentielle comme ce qu'on a aujourd'hui, les vendeurs n'ont pas du tout intérêt à mettre sur le marché des produits défaillants pour pas provoquer un perte d'intérêt pour la marque, par exemple. Mmh. Et à contrario, les consommateurs ont intérêt à acheter des produits qui sont plus durables afin de prolonger la durée de vie des produits et économiser en entretenant plutôt qu'en remplaçant.
D'accord. Les appareils de la maison qui tombent le plus vite en panne et qui nécessitent le plus d'entretien sont lesquels ?
Alors, ceux qui vont tomber le plus vite en panne, ça va être aujourd'hui le petit électroménager. Et au niveau de l'entretien, chaque équipement a besoin d'un entretien qui lui est propre. Il n'y a pas d'entretien qui est plus facile que d'autres. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que dans les 2 ans de garantie, donc les 2 premières années de vie des produits, le manque d'entretien est responsable d'une panne sur 2.
D'accord, donc raison de plus, effectivement, pour bien nous écouter ce matin, on va vous livrer des conseils très, très pratiques. Le prix de l'électroménager, c'est un indicateur de durabilité. Est-ce qu'il faut que je regarde l'étiquette en me disant plus j'achète cher, plus je sais que notre histoire va durer longtemps ?
Alors, oui et non. Ce qui va faire la durabilité du produit, c'est surtout la qualité du produit, la conception, le choix de matériaux par exemple, évidemment la phase d'usage aussi, donc avec l'entretien et éventuellement les actes de réparation si besoin. C'est tous ces éléments combinés qui font la durabilité du produit.
Mais dites-moi, il n'y a pas non plus des appareils ménagers qui s'auto-entretiennent ?
Il y en a quelques-uns, ça se développe un petit peu. J'ai en tête l'exemple des machines à café qui font broyeur de grains, qui ont des cycles automatiques de nettoyage, mais c'est pas aujourd'hui l'entretien demande encore une action humaine.
D'accord. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, je dirais, qui précèdent la panne d'un frigo, d'un aspi ou autre ? Est-ce qu'il y a des... Oui, c'est ça, des sortes de symptômes qui nous disent attention, attention, il va y avoir une cata.
Alors, ces symptômes nous disent surtout attention, attention, il faut faire un entretien. Ouais. On va retrouver par exemple un aspirateur qui a des difficultés d'aspiration. Ça peut être dû à un filtre encrassé, un réservoir trop plein ou un sac trop plein, un tuyau bouché par exemple, un lave-linge qui est bruyant peut être lié à des charbons moteurs qui sont usés, ou un lave-linge ou un lave-vaisselle qui s'évacue mal peut être signe d'une pompe de vidange encrassée ou bloquée par des petits objets. Donc c'est plus des signes d'entretien que des signes liés à des pannes.
Bon, on va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous livrer quelques conseils bien pratiques pour entretenir et prolonger la durée de vie de nos équipements. Voilà, les ordis, la machine à laver linge, à vaisselle et compagnie. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite, Anne-Charlotte.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Dans un instant, on va aller aux États-Unis avec Gregory Cohen, dont c'est le birthday. On va lui souhaiter son anniversaire sur l'antenne d'RTL, parce qu'on va parler cuisine et gastronomie américaine. Oui, madame, oui, monsieur, c'est de la gastronomie, même chez les Américains. Mais pour l'heure, on parle de nos appareils domestiques avec Anne-Charlotte Bonjean. Et grâce à vous, Anne-Charlotte, vous qui travaillez à l'ADEME et qui justement bossez sur les sujets d'allongement de la durée d'usage des produits, eh bien nous allons parler de l'entretien de nos machines. Alors ça, c'est super intéressant. C'est la partie hyper pratique qu'on va pouvoir conseiller à nos auditeurs. Question, réponse. Grâce à vous, Anne-Charlotte, on repart pour une décennie avec nos appareils d'entretien d'électroménager et compagnie. Comment j'entretiens un ordi ou un portable ?
Alors, le point commun entre ces deux éléments, ça va être la batterie et la connectivité. Donc les points les plus importants, c'est bien faire les mises à jour régulièrement, protéger sa batterie en limitant les charges prolongées, ne pas laisser brancher la nuit par exemple, et les décharges complètes parce que la batterie s'abîme. On va retrouver une optimisation de l'espace pour ne pas surcharger les équipements lors de l'utilisation. Le chargeur, important, ne pas utiliser n'importe quel chargeur. Utiliser le chargeur qui est fourni avec l'équipement ou un chargeur équivalent en ampérage et en puissance. Et après, plus spécifiquement pour le téléphone, le protéger avec une coque de protection et une protection d'écran en cas de chute. Et pour l'ordinateur, l'utiliser sur une surface plane, éviter l'ordinateur sur les genoux ou dans un lit, et mettre en veille ou éteindre l'ordinateur avant de le transporter.
Bon, alors moi je fais que des conneries, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, en tout cas avec mon ordinateur, c'est très mal parti. Mais j'apprends plein de choses grâce à vous. Comment on entretient sa machine à laver le linge et la vaisselle ?
Alors le premier point, c'est bien doser sa quantité de produits ou de lessive qu'on peut mettre dedans. Surdoser la lessive encrasse les tuyaux et les conduits. Sur un lave-linge, ne pas refermer le hublot ou le couvercle en sortie de cycle. Et sinon, on peut avoir des risques de moisissure à l'intérieur de la machine. Afin de détartrer et de désencrasser la machine, la faire tourner à vide ou avec des torchons à haute température, une fois par mois si possible.
Ah ouais ? D'accord. Haute température, c'est quoi ? Je monte à 90 direct ?
La plus haute température que la machine propose. C'est pour ça que mettre des torchons dedans ou des serviettes de toilette usagées qui craignent rien.
Et ça va la
vérifier. Ouais, ça va désencrasser les tuyaux avec en dissolvant les impuretés qui peuvent être contenues dans les tuyaux. Vérifier les filtres de la pompe de vidange, qui est vérifié qu'il n'y a pas de corps étranger, et idem dans les tuyaux principalement de sortie d'eau. Et pour le lave-vaisselle, faire attention au niveau de sel régénérant et de liquide de rinçage. Nettoyer les buses qui sont au bout des bras d'aspiration pour ne pas perdre en efficacité. Et évidemment, vider et nettoyer le filtre.
Génial. Mon réfrigérateur ?
Alors, le réfrigérateur, il faut la première chose, c'est régler la température correctement et bien ranger ses aliments en fonction des zones de froid. Ensuite, ne pas le coller au mur. Il faut laisser un espace derrière de 5 à 10 cm entre le mur et l'équipement. Et évidemment, nettoyer le réfrigérateur régulièrement à l'eau savonneuse. Et si le réfrigérateur contient une partie congélation ou un freezer, bien dégivrer la zone, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de givre et de glace dedans.
Ok. Mon aspirateur, comment je l'entretiens, mon bon vieil aspi ?
Alors, la première partie, c'est dans l'utilisation. On n'aspire pas d'eau avec, ni de particules fines, type de la poussière de plâtre, de la farine, des choses comme ça. Les filtres ne sont pas prévus pour et vous allez l'abîmer fortement. Un filtre d'aspirateur, ça se nettoie, ça se change quand il est encrassé. Et évidemment, le collecteur de poussière, très important, s'il est plein aux trois quarts, il faut le vider pour ne pas perdre en efficacité.
Mon fer à repasser ?
Alors, on le vide. Après chaque utilisation, on enlève l'eau du fer à repasser. Il ne faut pas de stagnante dedans. Au niveau de l'eau qu'on met dedans, que ce soit de l'eau distillée, de l'eau déminéralisée, de l'eau de robinet, de l'eau de source, il faut suivre les préconisations fournisseurs pour ne pas dégrader le fonctionnement du fer. La semelle du fer à repasser, on la nettoie une fois par mois, vérifier qu'il n'y a pas d'impureté. Et évidemment, en fonction de la dureté de l'eau qui est utilisée, on détartre le produit pour ne pas boucher les buses.
Mmh. On détartre avec du vinaigre blanc, c'est ça ?
On détartre selon la notice d'utilisation qui est fournie avec le fer à repasser.
Okay. Bon, alors moi je suis bien partie. Ok. Comment j'entretiens mon grille-pain ?
Alors, on vide régulièrement la trappe qui contient les miettes.
Ça, d'accord.
On vérifie qu'il n'y a pas de miettes qui soient en contact avec la résistance. Et on n'utilise pas d'objets métalliques pour sortir les produits qui sont dedans.
De dire ça. Je trouve ça hyper dangereux. Il faut avoir une petite pince en bois pour récupérer son pain, mais pas de trucs métalliques. Moi, j'ai tellement peur, en plus, des coups d'électricité. Ça me fait tellement peur. C'est très bien de le dire. Mon micro-ondes, il a besoin que je m'occupe de lui ?
Alors, la première chose à savoir, mais je pense que c'est connu maintenant, on met pas d'objets métalliques dedans, évidemment.
Tu m'étonnes, ça explose. On nous dit que
ça fait des étincelles. J'ai jamais été jusqu'à l'explosion, mais ça fait des étincelles.
Ah.
Donc c'est, et puis c'est pas bon. On enlève les miettes et les résidus alimentaires qu'on peut trouver autour, sur, dans le plateau tournant et compagnie. On ne bloque pas le plateau tournant et on évite évidemment de faire fonctionner le micro-ondes à vide.
Très bien. Ma bouilloire ?
Eh ben, un peu comme un fer à repasser, on ne laisse pas d'eau stagnante dedans et on la détartre régulièrement en fonction de la dureté de l'eau.
Et ma bonne vieille cafetière pour terminer ?
Alors, la cafetière, on maintient un niveau suffisant d'eau dans le réservoir pour éviter que la pompe tourne à vide. On met de préférence de l'eau de source ou de l'eau filtrée, mais surtout pas de l'eau déminéralisée qui est vraiment à éviter. Un nettoyage régulier de la machine, que ce soit les buses, les filtres, le réservoir, d'eau de collecte ou de capsule, permet d'avoir un bon fonctionnement et de conserver le goût du café. Et on n'hésite pas à faire des détartrages complets si besoin, mais les machines savent nous le rappeler quand il y en a besoin sur les cafetières la plupart du temps.
Eh ben, grâce à vous, on va vivre encore longtemps avec nos produits électroménagers. Anne-Charlotte Bonjean, merci pour tous vos conseils. Vous aimez...
Merci à vous pour l'accueil.
Je vous en prie, vous aimez la bouffe américaine, vous ?
Un petit peu, oui.
Ouais, un petit peu ou un petit peu beaucoup, c'est quoi ? C'est ironique,
un petit peu.
Bon, parce que Grégory Cohen va nous emmener en voyage dans un instant. Alors restez à notre écoute parce qu'on va réaliser qu'effectivement l'Amérique peut être synonyme de gastronomie. À bientôt.
Pas de soucis, j'ai hâte d'entendre
Anne-Charlotte,
tout ça.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir.
Gregory Cohen.
Good morning, Flavie Flamand.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bon, je ne vais pas vous faire Marilyn, mais on vous souhaite quand même tous un très joyeux anniversaire, Grégory.
Mais quelle voix, la Marilyn, je me sens un peu Kennedy
hein, ce matin.
Ouais,
vous avez vu un petit
mal.
Peu. C'est génial parce que grâce à vous, on va partir aux États-Unis. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait comme gâteau d'anniversaire aux États-Unis ?
Ah ben, aux États-Unis, ça serait forcément un layer cake. Ça veut dire un gâteau avec plein d'étages.
Oui.
Sans doute un rainbow cake même, c'est-à-dire un gâteau arc-en-ciel avec chaque étage aurait une couleur différente.
Oui.
Un glaçage, il serait pas bon du tout, mais il serait très beau.
Et on mettrait beaucoup de bougies dessus ou pas ?
Non, ça serait symbolique.
La bougie symbolique. Allez, grâce à vous, on part aux États-Unis. Vous venez de me raconter un gâteau énorme. Et on a vraiment le sentiment que les Américains, ils mangent beaucoup plus que nous. C'est vrai ou pas ?
Alors, ils mangent plus que nous parce que d'abord, c'est un pays à la démesure, les États-Unis. C'est 52 États, c'est 330 millions d'habitants. Mmh. C'est 17 fois la superficie de la France. Donc, c'est forcément énorme. Et puis donc, il y a un éventail culturel. Ils ont même quelque chose aux États-Unis qu'ils appellent « all you can eat ». Ça veut dire « tout ce que tu peux manger ». En gros, tout est compris. Et donc, il y a même une chaîne de petits déjeuners aux États-Unis qui s'appelle « I Hope ». Et c'est « all you can eat pancakes », autant de pancakes que tu peux manger pour 5,99 €. Autant dire que ça appelle à la consommation.
Donc, c'est ce qu'on appelle aussi de la malbouffe, là, concrètement. Parce que vous êtes chef, vous aimez les bons produits. On est bien d'accord que là, dans ces cas-là, dans du « all you can eat », on sait qu'on va manger de la gnognotte, quand même.
On va manger quelque chose de pas cher,
Donc forcément,
de vite fait, de plutôt industriel. Et on va en manger en très grosse quantité, donc c'est pas idéal, non, ça c'est clair.
Et d'ailleurs, le petit déjeuner américain, c'est un déjeuner à part entière.
Ouais, il est super copieux.
Repas.
Ouais, il est super copieux. Alors les Américains, c'est des grands enfants. Et du coup, parce que vous aussi, vous êtes une grande enfant, Flavie. Donc forcément, ils ont tout mélangé. Il y a du sucré, il y a du salé. Alors ils se composent généralement d'œufs, de bacon, de saucisses, de pancakes, mais aussi de pain perdu, qu'ils appellent là-bas les French toast, de céréales et de café à l'américaine. C'est une espèce de jus de chaussette. On appellerait ça un jus de chaussette chez nous, qui est à volonté. Et puis il y a les jus d'orange, etc. Ils se font très tôt dans des restaurants dédiés ou alors des diners.
On va se retrouver dans un instant parce qu'on ne va pas s'arrêter au petit-déj, vous et moi et nos auditeurs. Vous allez nous raconter la gastronomie américaine. On va se balader dans un instant état par état et vous allez nous montrer que la gastronomie peut rimer avec les États-Unis. À tout de suite, Grégory.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
C'est l'heure de se régaler. Et puis alors là, ce matin, on décolle. Et celui qui conduit l'avion, qui nous emmène aux États-Unis, c'est Grégory Cohen. Il est chef, il a plein de choses à nous raconter. Dites-moi, mon bon vieux Grégory, puisque c'est votre anniversaire aujourd'hui. Dites-moi, mon petit Grégory Cohen. Alors, je me posais une question parce qu'il y a un truc qui fonctionne très bien en France aussi, ce sont les bagels et les donuts. Tous nos jeunes se régalent de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou au milieu? C'est pour le tenir?
Oui, sûrement, c'est pour le dire. C'est un grand mystère, c'est le grand mystère de la création, ça. Pourquoi y a-t-il un trou dans les bagels et les donuts? Moi, j'aime bien y voir une sorte d'analogie, de l'esprit de ce pays qui est toujours en mouvement. Ils sont ronds, ils font penser à une roue. Ouais. C'est peut-être pourquoi les Américains les plébiscitent autant. En réalité, ils sont plus terre à terre. C'est vraiment pour les tenir plus facilement et les manger sans avoir à s'embêter avec le milieu.
Ok, d'accord, on a compris. On est bien d'accord qu'on peut faire un burger maison et ça peut être sain?
On peut faire un burger maison super sain. C'est plus sain. Il suffit de le faire avec des bons produits. Oui. On va chez son boucher, on achète un steak haché. On peut lui demander ce qu'on veut en maigre et ce qu'on veut en gras. On peut, tiens, un petit truc, on peut mettre dans le cœur de notre steak haché, on peut mettre du fromage, ce qui fait que quand on va faire cuire notre steak haché à l'intérieur, le fromage aura fondu, il sera hyper fondant et il donnera un goût en bouche qui sera absolument inimitable. On peut faire plein de choses et effectivement, il vaut mieux faire du fait maison plutôt que d'aller dans les chaînes pour manger un hamburger très très fin et pas forcément exceptionnel.
On se balade un petit peu? Vous nous emmenez, hein? On va aller du côté quoi? De la Nouvelle-Angleterre, parce que moi j'ai entendu parler du potage aux palourdes.
Le potage aux palourdes, c'est très léger, hein, vous allez voir, il y a des pommes de terre, il y a de la crème, il y a du lait, il y a du vinaigre de vin, des aromates, ça tient au corps quoi, avant de partir en mer, c'est pas mal.
À la pêche. C'est quoi le rôti braisé Yankee?
Alors le rôti braisé Yankee, c'est en fait une sorte de rôti cuit à basse température dans une cocotte. C'est un peu comme notre gigot de 7h ou de 9h, ça dépend. Et ben c'est la même chose. On le fait cuire pendant 7 à 9 heures. Et après, évidemment, comme c'est un petit peu trop léger, on va rajouter des haricots blancs à la sauce tomate sucrée. Ça va tenir aussi au corps. C'est assez fondant, mais c'est pas mal.
La cuisine Cajun, ça vient d'où?
Alors, la cuisine Cajun, c'est Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, on a la première vague d'immigration, là encore, mais là, c'est des Français, ce sont des Français qui arrivent. C'est les premiers colons français qu'on appelle les Acadiens. Et c'est une cuisine qui est un peu métissée. Elle a plein de cultures différentes. On a la cuisine qu'on appelle Cajun, qui va être un petit peu la cuisine de la campagne, du Bayou, et la cuisine créole, qui est la cuisine des villes. On y retrouvera plein de spécialités avec donc des écrevisses quand on est dans le Bayou, ou alors le jambalaya, une sorte de ragoût de riz, de jambon et de volaille et de crevettes quand on est plutôt en ville. C'est hyper bon.
J'adore, moi. Et où est-ce qu'on mange le meilleur barbecue?
C'est au Texas. Ils appellent ça le pit. C'est le barbecue. Et il y a des pitmasters. Donc, il y a même des concours, des championnats du monde de pitmasters, de celui qui maîtrise le mieux le barbecue. Et on va avoir du pulled pork, du brisket, ou alors des ribs de porc. Bœuf, c'est fondant, c'est fumé. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas se dire qu'on va faire un régime si on débarque là-bas, c'est une certitude.
C'est en Californie qu'on mange le plus healthy?
Alors c'est en Californie qu'est venu le mouvement healthy, donc tout le mouvement beatnik. C'est pas loin d'ailleurs d'un endroit qui est entre San Francisco et Los Angeles, qui s'appelle Big Sur. Et là, on a tous les Peace and Love qui étaient là, qui ont créé un petit peu le début de ce qu'on appelle de organic food, donc tout ce qui va être l'équivalent de notre bio, un petit peu. Et alors, c'est la folie des jus, des extracteurs de jus pour extraire vraiment ce qu'il y a de mieux, donc le green juice, les graines de lin, les laits végétaux. En Californie, on a beaucoup moins d'utilisation de lait animal, donc on a beaucoup plus de laits végétaux. Et du coup, c'est eux qui ont créé un petit peu tout ça. Une des stars qu'on a retrouvé en France et qui est emblématique de la cuisine healthy, c'est le fameux avocado toast. Vous savez, c'est ce toast avec l'avocat écrasé, des graines, de la roquette et puis un œuf mollet par-dessus. Du coup, on substitue les protéines animales.
Et c'est vrai que c'est super bon. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Des recettes pour la route? Qu'est-ce qu'on a? La salade coleslaw. J'adore!
Alors, la salade coleslaw, c'est celle qui nous donne bonne conscience aux États-Unis quand on mange un hamburger ou quand on va dans un délicatessen.
Exact.
Elle est simple à faire. On va prendre pour 6 personnes.
Sauf qu'il y a de la mayo.
Oui, c'est pour ça. Elle donne juste bonne conscience. En réalité, alors il y a un demi-chou vert, 6 carottes, du sel, du poivre et environ 50 grammes de raisins secs blonds. Pour la sauce, c'est un œuf entier, 25 centilitres d'huile, 25 millilitres de vinaigre. On va râper finement les carottes et le chou. On va mélanger l'œuf, l'huile, le vinaigre au mixeur pour obtenir une texture type mayonnaise. Si on trouve qu'elle est un peu trop épaisse, on peut rajouter du fromage blanc dedans pour 0% pour l'alléger un petit peu ou alors un peu d'eau. Et puis on mélange aux carottes, aux choux râpés, on ajoute les raisins, on assaisonne et hop, ça y est, on a notre coleslaw. super facile à faire et on est déjà un peu aux États-Unis.
Voilà, et c'est vraiment délicieux. Et alors, le dessert?
Alors, le dessert, c'est le cheesecake, le fameux cheesecake new-yorkais, celui qu'on trouve dans les délicatessens. Moi, j'en ai fait un petit peu différent, parce que le cheesecake new-yorkais, honnêtement, quand on veut le faire, il est assez compliqué, puis on n'a pas tous les ingrédients. Moi, j'en ai fait un qui va être quasiment sans cuisson du cheesecake et avec une pâte à tarte qui est très facile à faire. On va prendre pour le fond de tarte 100 g de biscuits cannelle, 25 g de beurre, on mixe les biscuits et le beurre, on passe au four à 180 degrés pendant 5 minutes, ça y est, on a notre fond de tarte qui est prêt. Terminé. Pour l'appareil cheesecake, on va prendre 200 g de crème liquide, 200 g de... Alors, ça s'appelle du cream cheese, mais en fait, c'est du fromage à la crème ou du fromage frais.
D'accord. Type
Philadelphia,
d'accord,
par exemple.
Ok, très bien.
40 g de sucre glace, 10 g de sucre vanillé. Et puis, alors, on va monter la crème lentement pour réussir à tous les coups. Il faut que tous les éléments soient bien frais pour que la crème soit... foisonne bien en fait. Mmh. Une fois que notre crème est montée en chantilly, on va ajouter le cream cheese avec le sucre glace, le sucre vanillé. On mélange bien à la crème montée en deux temps pour pas trop casser sa chantilly, pour garder un petit peu de légèreté. Et puis alors là, au fond d'un verre ou alors même dans un petit ramequin, on va mettre le fond de tarte croustillant, la cuillère à soupe, une cuillère à soupe par exemple de confiture de fraise si on veut faire un cheesecake à la fraise. Si on veut le faire au caramel, on met du caramel. Si on veut le faire au chocolat, on met un petit peu de chocolat au fond. On fait exactement ce qu'on veut, mais ou si on veut le faire nature, on le fait nature. Ensuite, on coule le mélange de cheesecake. On place au frais pendant 2 heures. Donc le fromage, le Philadelphia va se refixer et ensuite on le ressort. Et puis si on a mis de la confiture de fraise, eh ben, bientôt, quand ce sera le temps des fraises, on pourra décorer avec des fraises par-dessus. Sinon, on peut mettre un petit peu de sucre vanillé. Et puis voilà, on n'a plus qu'à déguster. On est aux États-Unis, on vient de faire un cheesecake très facilement et on a fait notre salade coleslaw.
Le Gregory Cohen Cheesecake. Thank you so much, Greg.
You're welcome.
Et on peut vous retrouver sur votre page Instagram, Gregory Cohen Off, comme officiel, car il n'y en a qu'un. Merci beaucoup, Greg.
Merci, Flavie.
Très bon week-end. On pensera à vous quand on se régalera. Je vous embrasse.
À vous aussi.
Salut, Grégory. Bye.
Ciao.
C'est la fin, This is the end de Nous Voilà Bien. Merci pour votre fidélité à cette émission que vous pouvez dès à présent réécouter en podcast sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires. Quant aux recettes de la semaine, elles vous attendent sur RTL.fr. Moi, je vous dis rendez-vous lundi, évidemment à 20h sur RTL avec Jour J. C'est le magazine qui vous fait revivre les grands événements marquants de notre histoire collective. Et puis samedi prochain, 9h15, on sera là pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et à lundi.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.